5 minutes, Madame Redoc. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le chef de la délégation, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation, à l'instar de mes collègues, je salue la contribution de ma chère amie, Madame Badana Rana, notre comité. Elle a occupé différentes casquettes au sein de ce comité, au niveau régional et national, dans l'intérêt des femmes. Je suis coprésidente du groupe de travail sur la recommandation générale sur les stéréotypes de genre avec elle, que nous allons présenter au cours de cette session avec une demi-journée de discussion générale. Mesdames et messieurs, le Népal est en première ligne dans de nombreux domaines de l'égalité de genre. Cela a été le premier pays du monde, sauf erreur de ma part, à reconnaître légalement les identités diverses de genre et le deuxième à reconnaître le mariage homosexuel, ce qui a permis d'anéantir une imposition coloniale et une discrimination vieille de plusieurs décennies. La réticence à modifier la situation de citoyenneté inéquitable pour les femmes népalaises et pour les femmes de la diversité du genre constitue donc une source d'inquiétude. Même si les dispositions de la Constitution interdisent, pardon, proscrivent les formes multiples et croisées de discrimination au motif du sexe, cette disparité majeure de droit laisse entendre que c'est une idéologie forte patriarcale, mais également une méfiance vis-à-vis des femmes pérennise cette situation. En dépit d'amendements récents à la Constitution, de nombreuses dispositions discriminatoires provoquent encore de vraies difficultés pour les femmes, les filles et leurs familles. L'article 11.2, le 11.5, le 11.7 de la Constitution du Népal identifie trois types de mères népalaises, ce qui mine leur identité indépendante. Tout d'abord, une mère népalaise avec un père népalais. Deuxièmement, une mère népalaise avec un père dont on ne retrouve pas la trace ou non identifié. Troisièmement, une mère népalaise avec un père étranger. Il n'y a qu'un statut pour les hommes népalais, en revanche, père népalais. En outre, avec l'article 11.6, on voit que les hommes peuvent directement octroyer la citoyenneté à leur conjointe étrangère. Ce n'est pas la même chose pour les femmes. En tout cas, ce n'était pas le cas avant un amendement de 2023, qui visiblement est encore difficile à faire appliquer dans la pratique. De façon surprenante, en dépit de la reconnaissance de la diversité du genre et du mariage homosexuel, cette disposition n'est pas disponible pour les conjoints de personnes LBTI et de femmes et de personnes issues de la diversité du genre qui sont étrangers. J'aimerais des précisions à ce sujet. Les effets de ces lois sont énormes. Les enfants doivent avoir une mère et un père népalais pour obtenir la citoyenneté. Avec les amendements de 2015, les femmes népalaises peuvent déclarer que le père est non identifié ou impossible à localiser. Les femmes peuvent alors accéder à la citoyenneté. Si un père déclare ultérieurement son statut, il y a toutefois des peines allant de 1 à 3 ans de prison avec des amendes allant de 100 000 à 300 000 roupies pour fausse déclaration pour les femmes. Ce n'est pas le cas pour les hommes népalais. Sans citoyenneté, les enfants deviennent en définitive des adultes apatrides, dépourvus de droits pour accéder aux services élémentaires, à l'éducation, à la santé, etc. et dépourvus du droit de vote. Si l'État parti a plus délivré plus de 360 certificats de citoyenneté entre juillet 2023 et 2024, il y aurait 4,5 millions de Népalais dépourvus d'un certificat de citoyenneté pour différentes raisons, notamment des lois restrictives et discriminatoires. L'État parti prévoit-il de s'attaquer à cette violation flagrante des droits des femmes et des filles dans la constitution népalaise en abrogeant les articles 11, 5 et 7 pour permettre aux femmes népalaises de transférer la citoyenneté à leurs enfants et la nationalité à leurs conjoints dans des conditions d'égalité? Pourriez-vous dire comment vous entendez étendre les droits en matière de citoyenneté aux enfants et aux conjoints et aux personnes homosexuelles ou d'identités diverses? Visiblement, 25% des enfants de moins de 5 ans n'ont pas été enregistrés à la naissance, n'ont pas d'acte de naissance. Beaucoup de ces enfants ont des parents qui sont par exemple apatrides, réfugiés ou migrants eux-mêmes et qui n'ont pas non plus d'acte de naissance ou de certificat de citoyenneté. Comment l'État parti peut-il aider ces enfants à accéder à la santé, à l'éducation, à l'emploi, aux services de protection sociale, etc. Et enfin, prévoyez-vous de garantir un enregistrement universel des naissances pour tous les enfants nés dans l'État parti? Prévoyez-vous de ratifier la Convention de 1954 des Nations Unies sur le statut des personnes apatrides et la Convention de 1961 sur